Bonjour Alain Touraine.
Bonjour.
Les robots, ça vous effraie? Parler à votre four, c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui vous enchante?
Non, d'abord, les robots, ça m'a d'abord inquiété. C'est à peu près 350 000 emplois qui foutent le camp, en ce moment, en France. C'est d'ailleurs deux fois plus que les délocalisations. C'est ça la grande source. Mais je dirais, comme toujours, que c'est tout à fait stupide de s'en tenir là, parce que quand vous avez des robots, vous avez des systèmes complexes qui supposent des tâches d'entretien, qui supposent des spécialistes, qui supposent des mises au point. Regardez, nous vivons aujourd'hui avec des gens qui se suicident dans une entreprise très moderne ou moins moderne, parce que les fonctions d'ensemble ne sont pas gérées. Voilà ce que ça nous apprend. Les robots, ça nous apprend que la période de la fabrication est passée à la période de la gestion d'ensemble complexe.
Et la façon dont on sort de la société industrielle, c'est un thème de réflexion pour vous depuis de longues années, Alain Touraine. Vous y revenez d'ailleurs aussi dans ce nouveau livre qui va être en librairie dès ce lundi, Le Nouveau Siècle Politique, qui paraît aux éditions du Seuil. Vous êtes un sociologue de renommée internationale, Alain Touraine, l'un des penseurs majeurs des mouvements sociaux, et ce depuis 50 ans. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages soucieux de l'état de notre monde. Dans ce livre, Le Nouveau Siècle Politique, vous êtes également soucieux de notre situation politique, la situation politique de la France. C'est un livre d'ailleurs qui paraît à la veille d'une élection majeure et qui s'inscrit de plein pied dans cette année électorale. Vous décryptez tous les mots MAUX que nous traversons aujourd'hui. Vous tentez de faire le pari de l'optimisme, on y reviendra bien sûr dans la suite de cet entretien. Est-ce que vous diriez que c'est un livre d'engagement?
Non. Comment voulez-vous que ce soit un livre d'engagement alors que s'il fallait utiliser un mot pour définir notre situation, je vous dirais c'est l'impasse. Mais l'impasse... Non, je préfère dire, quelqu'un a trouvé un beaucoup plus joli nom. Et quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est Madame Delmas Marty, qui est, disons, notre meilleure juriste dans son esprit, et qui a dit, c'est le poteau noir. Comme on le disait dans l'aviation, dans les années 20 et 30, c'est-à-dire vers les Caraïbes, un endroit où il y a des courants de tous les côtés, on n'en sort plus. Les bateaux coulent, les avions s'écrasent. Bon. Nous sommes donc au moment le pire. Et nous allons vers des élections qui n'ont aucun sens. Je m'explique très concrètement. D'habitude, quand vous arrivez à 2, 3, 4 mois de l'élection, vous avez un candidat favori pour la droite, un candidat favori pour la gauche. Je simplifie, ça peut être plus compliqué que ça, évidemment. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous savez? Honnêtement, vous savez que les Français sont pas chauds pour Hollande. Ils sont pas chauds pour Sarkozy et ils sont pas chauds pour Le Pen comme ils l'ont montré aux élections régionales. Bon, autrement dit, nous abordons la période électorale avec trois noms. Est-ce qu'il y a un nom?
Trois noms NOMS et trois noms NONS.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a derrière ces trois noms une nouvelle génération? Rien. Je dirais rien.
Emmanuel Macron non plus.
Naturellement, vous entendez beaucoup parler de Monsieur Juppé qui est dans la droite, mais
je réagis Alain Touraine parce que vous dites nouvelle génération, donc Alain Juppé non, mais non. Emmanuel Macron nouvelle génération.
Et vous pensez que Monsieur Macron est parti aujourd'hui pour gagner la présidentielle?
Moi, je pense rien.
Bon, vous ne pensez rien, vous avez bien raison, parce qu'il n'y a rien à en penser.
On est
sinon,
à ce point.
Sinon qu'il est intéressant, pour compléter ce que je disais, de dire nous avons même quelqu'un qui fait une sortie assez brillante et dont on pourrait dire qu'il est un candidat de gauche avec un programme de droite. Ça ne simplifie pas les choses.
Comment expliquer, Alain Touraine, que la France, avec tous les atouts la sienne, en soit à ce point d'être incapable de se projeter dans l'avenir?
Non, moi je trouve ça tout à fait normal.
Ah bon?
Mais écoutez, je ne veux pas faire de l'histoire lointaine, mais à la fin du XIXe siècle, Nous sommes déjà quand même en bon début d'industrialisation. Et qu'est-ce qui passionne à la fin du XIXe siècle les Français? La création du syndicalisme, 1895 Limoges, personne ne sait ça. La création du Parti Socialiste, 1905. 1920, les gens savent un peu qu'il y a eu éclatement du Parti Socialiste entre les communistes et les socialistes. Bon, de quoi on se passionne, sur quoi on se passionne à la fin du XIXe siècle? L'affaire Dreyfus, c'est-à-dire l'armée et l'Église contre le monde du travail pour aller vite. Eh bien, dites-vous, et c'est pas compliqué, et nous le savons maintenant tous les jours, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on le savait qu'à moitié. Mais nous changeons de société. À la fin du XIXe siècle, on est entré en masse dans la société industrielle. Eh bien, maintenant, 150 ans plus tard, on en sort. Et pourquoi, alors que les technologies changent, que l'économie change, j'ajoute que nous sommes entrés dans ce machin qu'on appelle la mondialisation, les Anglais disent la globalisation, c'est-à-dire que nous sommes dans la crise de l'État national, qui était quand même depuis le traité de Versailles 1648, vous avez appris ça à l'école, qui était quand même la base de notre organisation, et même en Europe centrale, même en Afrique, là, les gens avaient l'image de l'État national. Bon, tout ça change. Pourquoi voulez-vous que tout seul le système politique, qu'on puisse dire socialiste, libéral, comme si ces mots étaient hors du temps et de l'espace? Ils ne le sont pas. Je veux dire, les mots du politique sont les mots du social qui sont les mots de l'économique. Tout ça, on a changé de siècle.
Et les mots du politique ne se sont pas encore adaptés au nouveau monde.
Écoutez, vous avez quand même des gens extrêmement respectables qui vous disent, mettons à gauche par exemple, moi quand même je préférerais Jaurès à Blum. Hein? 150 ans. Vous voyez, enfin, ça n'a aucun sens. À droite, vous ne savez plus qu'est-ce qui est à droite. Prenez quelque chose qui est assez curieux, assez étrange et important. Le Front National. Comment est-ce qu'on définit le Front National ? L'extrême droite. Qui est l'électorat du Front National? Les ouvriers, les employés, les jeunes. Ça vous rappelle rien? C'était l'électorat du Parti communiste. Disons, le Front National, c'est avant tout l'expression de la France que certains, comme M. Guilly, un géographe, ont appelé la France périphérique, qui est malheureusement devenue majoritaire, parce que la seule chose qu'il faut savoir, c'est que la France est un des deux pays qui ont joué massivement et avec joie. Ils sont complètement idiots, ces Français. Ils ont, avec joie, joué la désindustrialisation, comme les Anglais. Nous sommes moins industrialisés que les Italiens aujourd'hui, pour vous donner une image, alors qu'on était quand même largement en avant. Donc, si vous voulez, on nous dit... Le Front National, c'est l'extrême droite. On n'est pas habitué à ce qu'on nous dise. L'extrême droite en France, c'est la tendance pour laquelle votent les ouvriers, les employés et les jeunes. Bon, c'est vous dire qu'on est dans la confusion la plus totale. On parle, quand on parle d'extrême droite, on a vu apparaître de l'extrême droite à propos du mariage pour tous, etc. Il y a un certain nombre de journalistes, d'écrivains qui se placent à l'extrême droite. Il y a même des gens que moi je placerais à l'extrême droite, comme M. Dupont-Aignan, parce qu'il est d'un milieu social plus élevé, alors il n'a pas l'air d'un facho, mais ce qu'il n'est sûrement pas. Mais je veux dire par là, il a... Quand M. Sarkozy dit « Tous les gens qui veulent venir en France doivent considérer les Gaulois comme leurs ancêtres », outre que moi je suis historien de formation, on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire. Parce qu'entre les Gaulois, il y a eu les Romains, que chacun sache, etc. Puis les Francs, On apprenait ça autrefois, les francs. Bon.
Mais Alain Touraine, vous parlez du Front National. C'est précisément pourquoi je vous posais la question d'un livre d'engagement que ce nouveau siècle politique, parce qu'il est quand même beaucoup question du souverainisme et du Front National dans
Absolument.
Votre livre, comme si c'était aujourd'hui pour vous le seul vrai combat,
c'est
l'impasse politique.
Non, c'est
une chose
vrai,
qu'il faut régler.
C'est le premier.
C'est
vrai
le premier, voilà.
C'est ça qui commande tout. Je dirais. Il y a 100 ans, on vous dit, vous êtes côté capital ou côté travail. Aujourd'hui, la première question qu'il faut vous poser, c'est vous êtes pour vous enfermer dans l'État national ou vous êtes pour jouer la mondialisation. Je dirais que aujourd'hui, un pays comme la France, qui a été en plus de ça un grand pays industriel, scientifique, etc., militaire aussi, colonial aussi, ce pays-là, s'il choisit de se fermer sur lui-même, il est foutu. Je veux dire, il devient la Hongrie ou la Pologne à la rigueur, etc. Donc, le premier choix, c'est vous voulez vous enfermer dans votre chambre d'hôtel ou vous voulez vous balader dans la grande nature.
France Culture, la matinale du samedi, Caroline Brouet.
C'est le choix premier, nous dit Alain Touraine. Vous parlez du Front National et précisément, Alain Touraine, nous sommes en ligne avec Grégoire Kaufmann, qui est historien et qui a fait paraître il y a quelques semaines le nouveau FN, le nouveau Front National aux éditions du Seuil, dans la collection de la République des idées. Un essai dans lequel Grégoire Kaufmann nous dit que le Front National, version nouvelle, est en fait quasiment le même que l'ancien, sauf que précisément, lui, ce parti, a évolué avec la société. Bonjour Grégoire Kaufmann.
Bonjour.
Vous avez entendu Alain Touraine nous dire le Front National, c'est l'extrême droite. On dit ça aujourd'hui. Le Front National, ça n'est pas l'extrême droite, nous dit Alain Touraine. Qu'en dites-vous, vous ?
Alors, comme vous le rappeliez, moi j'essaie de montrer que le Front National, le nouveau Front National est pour partie ancien dans la mesure où il agrège toute une série de vieilleries idéologiques, et c'est cet agrégat qui en fait fait la nouveauté de ce phénomène politique aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nouveau Front National, le Front National version Marine Le Pen, a réussi à subvertir en fait tout un pan de l'héritage républicain. C'est ça qui est selon moi très nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Front National invoque avec constance la République, la laïcité, la défense du droit des femmes, la lutte contre l'antisémitisme. Ce sont des arguments largement nouveaux au sein du Front National. Et ce que l'on observe selon moi, c'est qu'il y a une entreprise d'annexion qui a été engagée par le FN, qui prospère aujourd'hui en s'appropriant les valeurs et les principes traditionnellement utilisés pour le combattre. C'est-à-dire que les mots et les armes de ses opposants, c'est-à-dire anti-républicains, homophobes, etc., antisémites, eh bien, sont devenus ses propres armes, hein, les armes du Front National, qui sont aujourd'hui des armes dirigées en direction de ce que Marine Le Pen appelle le nouveau totalitarisme, c'est-à-dire l'islamisme.
Oui,
ça, c'est très nouveau. Mobiliser les valeurs républicaines pour dénoncer le nouveau totalitarisme qui serait, selon Marine Le Pen, l'islamisme.
Sur les failles de la communauté nationale. Grégoire Kaufmann, il y a eu plusieurs livres parus l'année dernière déjà sur le sujet, sur le Front National. Je pense au livre de Cécile Alduy, le FN pris au mot, très très bon livre. Quel est le but d'un livre comme le vôtre ? Est-ce que c'est comprendre ce nouveau Front National ? Est-ce que c'est le combattre ? Et si oui, comment ?
Je pense que c'est davantage le comprendre, dans la mesure où on voit aussi le fourre-tout idéologique qui est aujourd'hui ce parti. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à travers cette invocation de la République dont je parlais, eh bien le Front National fait ressurgir une très vieille tendance interne à l'héritage républicain, qui est celle d'un républicanisme autoritaire, anti-système, anti-élite, un républicanisme qu'on a pu voir prospérer, par exemple, au temps du boulangisme, et qui remonte presque à la Révolution française, à la Terreur, avec un ultra-jacobinisme d'exclusion, qui aujourd'hui, en fait, fait le lit, en fait, du Front National. On voit, et là, je pense que ça recoupe le propos d'Alain Touraine. C'est vrai que le Front National, c'est ni droite ni gauche. Aujourd'hui, le vrai clivage pour le Front National passe entre patriotes et mondialiste, hein, c'est sa terminologie, et à travers cette grille un peu manichéenne d'interprétation du monde, eh bien, le Front National propose un nouveau système de valeurs, et c'est en cela que, selon moi, il est en partie nouveau.
Alain Touraine.
Mais c'est exactement ça. Je veux dire, pourquoi appeler extrême droite le Front National? Le Front National, lui, a fait le changement que moi je souhaiterais que tout le monde fasse. C'est-à-dire que lui s'est placé dans la nouvelle problématique et il dit, moi je suis souverainiste. Et vous savez aussi bien ou mieux que moi qu'il y a des gens comme Florian Philippot, qui est la tête de ce Front National, qui vient de chez Chevènement. Et il y a des gens de l'extrême-gauche, il y a des gens, des laïcs, qui au nom de la laïcité deviennent islamophobes. Bref, on se répartit. Tout ça, mais cessons de parler dans les termes d'il y a 50 ans ou 100 ans. Prenons les gens pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Ceux qui emploient des mots qui ne correspondent à rien sont des gens qui ne peuvent pas avoir d'effet. La confusion est que aujourd'hui on vous offre des gâteaux de la semaine dernière qui sont non mangeables et qu'on ne vous présente pas de gâteaux qui étaient faits pour la semaine prochaine ou pour ce week-end.
Alain Touraine, nous cherchons la régénération de notre vie politique. Par quoi commencer pour que les responsables déjà vie politique s'adaptent au monde d'aujourd'hui, à la société de la communication?
La question que vous posez mérite une réponse très précise. Et ma réponse est celle-ci. Premièrement, une fois fait le premier choix, c'est-à-dire souverainisme ou monde ouvert, qui n'est pas un choix. C'est-à-dire, vous ne jouez plus, je me retire sur mon tas de sable, ou bien je vais... Vous savez que les échanges mondiaux sont à 80% des produits industriels. Vous savez donc que l'avenir de la France dépend de sa réindustrialisation. Donc, il faut... Et j'ajoute que les Français sont pas si mauvais que ça dans la technologie, dans la science fondamentale, etc. Bien. Quelle est la grande affaire, au-delà de ce premier choix, où il faut éliminer, en effet, les gens qui font du souverainisme? Grand choix, c'est celui-ci. Nous sommes entrés dans un monde qui ne fabrique plus des objets, qui fabrique des attitudes, des choix, des décisions, par les médias, par les discours de tous ordres, par l'importance des communications. Par conséquent, aujourd'hui, on joue à plein. Je dis pas totalitaire, mais je dis moins pouvoir total. C'est-à-dire... Le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire, appelez ça la classe dirigeante si vous l'appelez ça comme ça, quoique ça ne veuille plus dire grand-chose, la classe, en pareil cas, mais ça serait, disons, l'élite au sens sociologique, c'est-à-dire ceux qui dirigent. L'élite dirigeante qui est celle qui manie tous les Apple, tous les Google, tous les Amazon, tous les... etc. Bon. Et tout ce qui vient derrière, et plus les politiques secrètes, les services de renseignement, etc. Mais aussi, bien souvent l'enseignement, lorsqu'il y a une idéologie officielle. Bon, en face de ça, c'est-à-dire en face de ce que moi je crois l'essentiel, les pouvoirs que j'appelle moi exprès des empires, ils ont un pouvoir économique, politique, et culturel. Il n'y en a pas des masses. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a les Daesh et autres mondes communistes, etc. Bon. J'en viens à l'essentiel. En face de ça, en face de ce pouvoir total, général, qui vous défendez? Au nom de qui vous parlez? Des citoyens? C'est du politique pur. Des travailleurs? C'est de l'économique pur. Non, il faut que vous parliez des droits des sujets humains, et je vais vous le dire, je l'ai découvert en travaillant, le monde a trouvé un mot pour ça, un mot je l'avais trouvé de mon côté, mais il y a des milliers des centaines de milliers de millions qui l'ont trouvé, et il y a en particulier quelqu'un qui l'a trouvé et qui l'utilise tout le temps, qui mérite quand même attention, c'est le pape. Il dit... Et Mandela employait le même mot, c'est-à-dire la dignité, c'est-à-dire les droits humains, pas au sens le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir des vacances ou le droit d'avoir la sécurité sociale, le droit à être traité comme un être digne, ne pas être, prenez le mot capital dans le monde entier, sur la cordillère des Andes ou sur l'Himalaya, le droit de ne pas être humilié.
Pour l'instant, c'est les artistes, Alain Touraine, qui s'emparent de ce thème. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour l'instant non pas les politiques qui s'emparent de cette question de la dignité, qui ont compris que c'était le mot du 21e siècle. Ce sont en particulier, je pense, à deux cinéastes dont on va voir les films prochainement. L'un est déjà sorti cette semaine, c'est Aquarius, film brésilien sur la quête d'une femme de dignité, précisément. Et l'autre, c'est un film anglais qui va paraître et qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est Moi, Daniel Blake, de Ken Loach. C'est un film sur la dignité, sur cet impérieux besoin de dignité.
Donc, tout le monde le dit.
Sauf les hommes politiques français, en quelque sorte.
Les politiques, ils ont 100 ans de retard. Vous comprenez? Je prends un exemple que je prends favorable à la France. Puisque la France, des dernières années, dont il ne faut pas dire que tout va mal, c'est parce que ce n'est pas vrai. La France, elle vient de faire un truc qui n'est pas mal du tout, hein. Boucher le trou de la sécurité sociale, tout en prenant des mesures nouvelles, ce n'est pas si mal. Mais nous sentons bien que ce qu'on a soigné, c'est la santé, plutôt que les malades, plutôt que les gens, parce qu'on manque d'argent, on manque d'espace. Il faut respecter l'autonomie des soignants et des soignés. Il faut avoir du respect. Rappelez-vous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand on entendait les chaussures des infirmières ou des infirmiers dans les couloirs. C'est fini. On a fait de grands progrès. Il en faut infiniment plus. Nous avons, prenez l'école. Vous savez que la France est dans une situation dramatique. C'est le plus mauvais pays.
Le dernier rapport, effectivement, du CNESCO fait état des inégalités.
C'est le pays qui produit de l'inégalité. Et c'est le pays qui traite le plus mal les 20% les mal placés. Ce qui est, selon ce que m'a dit le directeur du PISA, le meilleur test pour savoir comment marche un système scolaire. Bon, on vit dans un monde où il fallait que l'enseignant soit celui qui transmet la vérité, comme l'hostie, si vous voulez, laïque, aux élèves ou aux étudiants. Autrement dit, il y a un décalage formidable. Les Français, ils sont pas si mal, ils se débrouillent pas si mal, ils ont quelques petits prix Nobel quand même, etc., et des médailles Field à gogo, etc. Bon, et il y a des gens très bien, il y a des découvertes, mais il y a des catégories de pensée et d'agir qui ont 150 ans d'âge et qui sont aussi périmées aujourd'hui qu'en 1914 l'était la discussion sur le roi à Versailles.
C'est ce qui fait, Alain Touraine, que vous écrivez que nous ne sommes donc plus adaptés au monde nouveau et que le choix n'est plus entre la gauche et la droite, mais entre le passé et l'avenir.
Voilà. Alors, pour vous dire les choses en termes extrêmement simples, je pense qu'on est dans l'impasse. Il n'y a aucune sortie possible. Ça peut être l'extrême droite. Quand je dis l'extrême droite, excusez-moi, je veux dire celui qui emploie les expressions les plus extrêmes, qui est évidemment M. Sarkozy, qui parle avec des mots plus durs que Mme Le Pen à l'heure actuelle. Bon. Mais ça peut être aussi de l'extrême gauche, parce que quand même, Mélenchon et compagnie, ça existe. La gauche se décompose, mais l'extrême gauche survit pas si mal que ça. Bon, enfin, on est vraiment dans l'impasse totale. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Il doit se passer maintenant qu'il faut faire le bon changer de 100 ans. Bon, ça, nous n'allons pas trouver ça sous le pied d'un cheval, et encore moins d'un robot. Nous allons trouver un gouvernement qui sera je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, qui sera certainement pas un des grands noms qu'on cite pour en ce moment, un des trois grands qu'on cite, et qui doit faire le passage, et pendant 5 ans, on aura un gouvernement de transition qui sera ni droite, ni gauche, ni avant, ni arrière. Et dans 5 ans, on verra bien celui qui est capable d'avoir franchi le plus de distance, qui soient à gauche. Moi, j'ai dans la tête des gens qui, à gauche, seront présents dans 5 ans.
Ah bah vous nous les donnerez, Alain Touraine.
Je peux imaginer des gens qui finissent à droite par s'y mettre. Bon, on peut même imaginer un changement du Front National qui passe vers la nouvelle tendance Philippot en partant de la tendance du grand-père.
Alain-Antoine, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que, et vous le faites encore plus dans ce livre sur le nouveau siècle politique, vous passez vraiment en revue tous les nos maux actuels et même quand même les remèdes à leur apporter. Questions nationales, questions religieuses, questions scolaires, questions écologiques.
Vous venez d'employer national et religieux. Il ne faisait plus partie au nom d'un laïcisme.
Oui, vous vous étonnez
bizarre,
vous-même de commencer votre livre par ces deux questions-là. Ben,
Exprès, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est justement, en fonction de ce que je viens de vous dire, la mondialisation, c'est-à-dire le grand danger qu'est le communautarisme, oui, c'est un grand danger, le monde de l'identité. Rappelez-vous ce qui nous est arrivé il y a quelques années en France, où on a voulu nous mettre un ministre de l'identité, je sais pas quoi, des lois où les parlementaires iraient décider de savoir si Henri IV était un bon type ou un salaud, enfin, des choses grotesques. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes au pied de la cordillère, et il s'agit de savoir si on va sauter de l'autre côté.
On va sauter de l'autre côté. On est déjà dans une société de la communication, Alain Touraine.
Oui.
Cette question, elle court dans tout votre livre de façon implicite. Et pourtant, cette question numérique est absente explicitement de votre livre. Le lien entre le numérique et politique, ça tombe bien. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Les initiatives citoyennes.
Avec ce dernier temps de cette matinale, tour à tour, Alexandre Jardin, Elisa Lewis, Jackie Durand et aujourd'hui Diana Filipova, bonjour.
Bonjour Caroline.
Membre du collectif WeShare, précisément comment les acteurs numériques et les plateformes peuvent travailler à renouveler la politique, et pas seulement parce qu'elles sont innovantes, c'est le sujet que vous nous apportez ce matin.
Absolument. Je vais vous parler de la relation entre le numérique et la politique, et notamment dans le cadre de cette période cruciale de la campagne présidentielle, des campagnes présidentielles aux États-Unis et en France. Le numérique, l'entrepreneur est toujours associé avec progressisme, voire la gauche. L'innovation technologique est ainsi vue comme synonyme de progrès social, de valeurs qui sont forcément libérales, dans un monde qui souvent polarise le nouveau monde avec l'ancien. Mais est-ce vraiment le cas ? Tout n'est pas aussi simple. Je prends deux exemples dans la campagne présidentielle américaine, notamment dans la Silicon Valley. Alors, la Silicon Valley a 99% démocrate pour Hillary Clinton, mais il y a deux contre-exemples assez intéressants. Le premier, c'est Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle qui a été financé par une campagne participative, de financement participatif. Eh bien, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il finançait en secret une campagne de dénigrement d'Hillary Clinton. Très intéressant. Deuxième exemple, c'est Peter Thiel, le grand gourou de la tech, celui qui a fondé PayPal, un des premiers investisseurs de Facebook, enfin, quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ces questions-là. Eh bien, il est libertarien, il s'est déclaré de supporter Donald Trump il n'y a pas si longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que le discours de Peter Thiel, finalement, n'est pas forcément trumpiste, il est juste libertarien. Ce qu'il considère, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie est devenue tout simplement incompatible avec la liberté et l'efficacité. En fait, ce qui représente pas mal de théories sur l'incompatibilité du big government, du grand gouvernement, avec ce dont on a besoin, c'est-à-dire le progrès social par le bas.
Donc ça veut dire, Diana Filipova, que l'innovation n'est pas nécessairement liée donc au progressisme, mais au-delà de cette absence de lien entre innovation et progrès, disons immédiat, quel problème selon vous pose ces plateformes-là ?
Alors, effectivement, l'émergence des plateformes de ce qu'on appelle civic tech, en fait, apporte ce qu'on peut appeler l'illusion de la neutralité. L'idée qu'on peut être transpartisan, qu'on peut ne pas créer de clivage et d'avoir une vision qui rassemble tout le monde. Alors, pour moi, ça pose deux problèmes assez communs avec la tech. Le premier, c'est ce que j'appelle l'illusion de la neutralité. On se dit qu'une technologie n'est pas de gauche ou de droite, elle, et que forcément, elle va nous permettre de créer quelque chose d'absolument transpartisan, non polarisé. Alors, c'est complètement faux, puisque on sait que la technologie esthétique et neutre, puisqu'elle porte en elle-même les valeurs, le dessin, le design de ses créateurs. Le deuxième, problème, c'est ce que j'appelle, moi, le solutionnisme politique, qui est une reprise du concept de Morozov de solutionnisme technologique. On se dit qu'avec les plateformes de Save the Tech, tout à coup, on va combler ce trou béant qui existe entre les citoyens et le gouvernement, et qu'on va recréer un nouveau souffle, juste parce que elles existent, finalement, sans apporter une vision idéologique nouvelle. Et évidemment, ce n'est pas le cas, puisque rien n'est neutre. Et aujourd'hui, c'est justement d'une vision plutôt clivante dont on a besoin pour, comme l'a si bien dit Alain Touraine, pour essayer de redonner des nouvelles valeurs, un souffle nouveau dans une politique un peu polarisée, un peu molle, en fait, d'une certaine façon.
Alors, est-ce qu'il existe des plateformes, précisément, qui pensent réellement une vision partisane de la politique, ou qui, en tous les cas, cherchent à renouveler la vie politique ?
Alors, sans rentrer dans la vision partisane de la politique, puisque moi, je ne suis pas en train de préconiser la politisation, la transformation des civic tech en partie, c'est pas du tout leur rôle. Au contraire, ils font un boulot qui est très important, c'est de créer un espace de discussion, de débat, dans un monde où il n'existe plus, tout simplement. Donc, ça, c'est une chose extrêmement importante. En revanche, il faut réfléchir en deux termes. Le premier terme, c'est l'impact. Concrètement, qu'est-ce qu'une plateforme va permettre de faire concrètement dans le cadre des présidentielles ? Alors là, l'exemple que je prends, c'est le nouveau collectif Hello 2017, qui est lancé par Vox et dont on va parler tout à l'heure, et qui lui propose de créer au-delà de la comparaison de programmes, enfin des choses assez classiques somme toute, des espaces de débat citoyens un peu partout en France. Et enfin, la deuxième chose, c'est que aucune campagne de porte-à-porte, aucune plateforme, aussi sophistiquée soit-elle, ne va remplacer, je le répète encore une fois, déjà l'organisation de la communauté, ce qu'il y a de plus terre à terre, ce qu'il y a de plus physique. Et la deuxième chose, c'est la création d'une vision proprement politique, clivante, qui demande un travail idéologique et qui n'a, si elle a quelque chose à voir avec la technologie, dans la pensée avec le numérique, ne peut pas se faire uniquement par le biais du plateforme.
Vous parlez du collectif Hello 2017, alors c'est tout nouveau, hein. Je crois que ça a une dizaine de jours à peine. Bonjour Amélie Perrault.
Bonjour Caroline. Bonjour.
Vous êtes justement allée rencontrer ces membres du collectif Hello 2017. Déjà, c'est quoi Hello 2017 ?
Eh bien, Hello 2017, donc comme Diana a commencé à le dire, c'est donc une plateforme sur Internet qui rassemble trois initiatives qui en fait existaient déjà. Vox.org, un outil qui permet de comparer les programmes des candidats. Curious, qui est une technologie qui permet d'interpeller les candidats, d'aller leur poser une question. Et Kawa, un outil pour organiser des rencontres dans la vie réelle. Et donc, ces trois initiatives ont formé une plateforme unique, Hello 2017, qui combine toutes ces activités. Donc,
Hello, c'est H-E-2-L-O. Hein.
Exactement, bonjour. Comme bonjour en anglais. Et sur Hello 2017, on va pouvoir donc à la fois s'informer, comparer les programmes des candidats, interpeller les candidats et se rencontrer, organiser des débats dans la vie réelle avec un objectif commun que Hello 2017 met en avant sur son site, nous faire adorer les élections.
Eh bien.
Alors oui, c'est un vaste programme. Et donc l'idée, c'est de mutualiser leurs activités pour créer cet espace. Pourquoi ? Léonore de Roquefeuille, que j'ai rencontrée, nous l'explique.
Déjà, on se connaissait bien par nos histoires mutuelles et ça nous a paru extrêmement logique de travailler ensemble pour pouvoir dépasser les sphères des petites choses que nous faisions déjà. Et aussi parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour la civic tech en France, pour les technologies citoyennes en France. L'enjeu, c'est de réussir à se rassembler pour avoir un vrai pouvoir, pour avoir un vrai rôle dans l'élection. Le but, en fait, c'est que l'ensemble des initiatives s'emparent de la plateforme. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que l'ensemble des initiatives civic tech aillent poser leurs questions aux candidats en leur demandant de se positionner sur ces thématiques de comment est-ce qu'on fait de la politique à l'ère du numérique. On pourrait très bien imaginer que l'ensemble des initiatives civic tech mettent leurs débats, leurs rencontres sur Hello 2017 pour pouvoir faire connaître ce qu'ils font. Et ensuite, quand nous, on va ajouter les programmes de la primaire, laprimaire.org, c'est aussi une initiative qui est née sur Internet. Et c'est ça notre rôle, c'est de réussir à être une plateforme qui va être un porte-voix de l'ensemble de la civic tech française.
Justement, sur cet aspect, il y a énormément d'initiatives qui se font en France aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce que l'objectif, c'est de devenir un mouvement ?
Le propre de beaucoup de civic tech, et de la plupart d'entre elles, en fait, c'est d'être des plateformes, donc des outils. Un outil, ça n'est que ce qu'on en fait. Donc, la question de savoir si on va réussir à transformer ça en mouvement, j'ai presque envie de dire que c'est pas notre propos. Notre propos à nous, c'est d'amener cet outil dans le plus de mains possible. Et ensuite, c'est là que ça va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la multitude, qu'est-ce que les citoyens vont faire de ces outils-là. Est-ce qu'ils vont s'en emparer ou pas? Et pour qu'ils puissent s'en emparer, bah, ce qu'il faut réussir à faire, et c'est là le vrai enjeu de la Civic Tech en France aujourd'hui, c'est de réussir à, un, le communiquer à une population variée, diversifiée, représentative de la France. Et le deuxième enjeu, c'est de réussir à amener la Civic Tech dans le réel. Parce que c'est là que les mouvements commencent, en fait. Les mouvements, ils vont peut-être commencer sur Internet, mais les révolutions, bah, elles ont commencé dans les rues. Donc, au moment où ça va aller dans la rue, au moment où ça va aller dans les cafés politiques, bah, on pense que ça peut vraiment décoller, ouais.
Alain Touraine, est-ce que c'est une esquisse de solution
Attention
pour sortir de l'impasse?
À ne pas jouer avec le feu. Parce qu'il se passe en ce moment quelque chose qui correspond un peu à tout ça. On a vu apparaître un mouvement, des gens qui sont réunis. Ce monsieur s'appelait Monsieur Trump. Et c'est cette fameuse classe moyenne qui est en chute libre parce qu'il n'y a pas de sécu sociale et parce que l'école est chère aux États-Unis. Donc les classes moyennes, quand elles tombent beaucoup plus sur les fesses qu'en France. Et donc à ce moment-là, vous n'avez rien en face. Madame, ce qu'on reproche à Hillary Clinton, c'est qu'elle est l'establishment. Comme me disent mes amis intellectuels américains, ils me disent, en fait, depuis Ronald Reagan, rien n'a changé. Ni Clinton, ni Obama, ni Madame. C'est toujours Wall Street qui commande. Je ne prends pas parti. Mais en face de ça, vous avez cette agitation qui est une agitation dangereuse, qui est une agitation, disons, pour prendre le vieux vocabulaire qui ne correspond plus à rien, mais qu'on emploie, fascisante, où vous ne savez pas ce qui va se passer, et où vous allez tomber sur du racisme. Aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, ils vous disent « c'est la faute aux réfugiés, c'est la faute aux immigrés », c'est-à-dire les gens qui sont les plus victimes, comment voulez-vous qu'ils soient coupable.
Oui, mais là, c'est pas ça, Alain Touraine. Là, l'idée, c'est que, en dehors de cette agitation dont vous parliez, certains de la société civile se prennent en main pour pouvoir lancer des mouvements qui aident les hommes politiques en France, comme aux États-Unis, à passer dans le monde d'aujourd'hui dont vous parlez.
Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est pas ce qui a exactement été dit. Qui aide, c'est-à-dire que ces agitations de base, ces réseaux d'action citoyenne dont nous parlons tous de toutes les formes, c'est bien à une condition, c'est que ça soit une manière pour mettre en rapport l'opinion et les grands problèmes par-dessus le dos des hommes politiques dépassés. Mais cela veut dire que ces mouvements doivent être liés à un candidat.
Diana Philippova.
Doivent les aider à lier leur action quotidienne, leur référence aux problèmes quotidiens, l'agriculture du Grand Ouest, etc., avec le changement général de décor. Si vous ne comprenez pas qu'il y a d'abord un changement de siècle et de décor, vous n'allez que renforcer les tendances les moins mises en forme, c'est-à-dire les plus dangereuses.
Diana Philippova.
Alors moi j'entends tout à fait ce que vous dites, Monsieur Touraine, c'est qu'on vit quand même dans un monde qui est extrêmement polarisé et qui, à mon avis, bien plus affreux que ce qu'on accepte bien de voir. Et effectivement, si on regarde les outils en eux-mêmes, les partis aujourd'hui qui savent le mieux mobiliser la foule, faire ce qu'on appelle le community organizing, c'est le FN d'une part et c'est Trump, comme on le voit d'ailleurs avec ce fameux Palmalocke. Donc c'est pas vraiment les seules solutions qui peuvent nous permettre de sortir de là, et surtout la création d'une vision politique renouvelée, quelque chose qui ne soit justement de droite ou de gauche, et non pas ni de droite ni de gauche, pour reprendre une expression très connue, qui doit être notre objectif. Mais ça, ce sont des choses complémentaires. C'est ça qu'il ne faut pas tout mélanger.
Merci beaucoup. Merci Diana Philippova. Merci beaucoup Alain Touraine. Le nouveau siècle politique, votre nouveau livre, paraîtra lundi aux éditions du Pourquoi déteste-t-on la politique? Ça sera le programme de l'Atelier du Pouvoir ce samedi à 12h45 avec Jacques Rancière et Daniel Gaxi. Lundi, le grain à moudre d'Hervé Gardette posera aussi cette question: qui incarne le mieux les idées de droite? Bref, il sera question de politique encore et toujours sur cette chaîne, sur France Culture. Merci à tous d'avoir écouté la matinale du samedi.